vendredi dernier de la session ordinaire au Parlement, certaines lois ont été votées par les deux chambres, notamment la loi électorale révisée et la loi portant répartition des sièges. Cependant, plusieurs matières importantes restent en souffrance. C'est le cas de la loi sur les manifestations publiques et celle portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Quel bilan dresser du déroulement de cette session parlementaire? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable John Kolela. Bonsoir.
Bonsoir, Irung.
Vous êtes député de l'opposition, élu de l'ICASI, porte-parole du groupe parlementaire UDPS et Alliés à l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est l'honorable Albert Botombola, député de la majorité présidentielle, élu d'Isangi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et deuxième vice-président du groupe parlementaire AFDC et Alliés à l'Assemblée nationale. Lui, il est là dans ce studio. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Si les matières attendues pour la bonne marche du processus électoral ont été votées, plusieurs autres lois inscrites au calendrier de la session ordinaire de mars ne l'ont pas été. Le Parlement est donc convoqué en session extraordinaire qui s'annonce éminemment politique au regard des enjeux de l'heure. Michel Kifindangoy.
Parmi les matières inscrites au calendrier de la session de mars clôturée vendredi dernier, il y a notamment le projet de loi portant répartition des sièges. Cette annexe à la loi électorale a bel et bien été votée par les deux chambres du Parlement, qui ont également voté séance tenante les deux propositions de loi portant révision de la loi électorale sur l'enrôlement des Congolais de l'étranger. À en croire le président de la CENI, rien ne peut plus retarder du point de vue légal la tenue des élections le 23 décembre prochain. Le seul problème que devrait résoudre l'Assemblée nationale avant d'aller en vacances et le remplacement de Jean-Pierre Kalamba au poste du rapporteur de la CENI. Ceci n'est pas une contrainte, mais plutôt une nécessité pour crédibiliser le processus conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Cependant, plusieurs autres lois jugées importantes pour le renforcement de la jeune démocratie n'ont pas été votées, bien qu'inscrites au calendrier. Il s'agit entre autres de la loi sur les manifestations publiques, celle sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, sur la lutte contre le terrorisme, la loi sur l'accès à l'information, ainsi que le projet de loi sur les ASBEL. Ces matières devront être examinées à la session extraordinaire qui s'ouvre incessamment. L'adresse à la nation du président Joseph Kabila ainsi que l'examen de la proposition de loi sur le statut des anciens présidents de la République élus sont aussi parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire.
Merci Michel Kifindangoy. Honorable John Kolela, vous êtes député de l'opposition, élu de l'ICASI, porte-parole du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Quel bilan vous dressez de cette session ordinaire de mars?
Merci beaucoup Alain pour l'invitation. Je tiens à remercier aussi les différents auditeurs qui nous suivent à travers le pays et en dehors du pays. Pour parler du bilan d'une institution comme l'Assemblée nationale, il faut d'abord connaître ses missions. En principe, les missions de l'Assemblée nationale se résument en deux grandes missions, à savoir la votation de lois et les contrôles parlementaires. Il est vrai que dans votre introduction, vous avez mis beaucoup d'accent sur la votation de lois. C'est vrai, depuis le début de cette législature, nous avons voté beaucoup de lois, nous sommes presque une législature qui a voté beaucoup de lois par rapport à d'autres qui nous ont précédés. Mais il ne suffit pas seulement de voter les lois, il faut voir ces lois-là être mises en application pour que la République ainsi que le peuple puissent en être bénéficiaires. À ce jour, c'est comme si l'Assemblée nationale, nous sommes en train de marcher avec une seule jambe au lieu de marcher avec deux. C'est-à-dire beaucoup plus nous sommes du côté de la votation et le contrôle parlementaire est en train de souffrir. Du côté du contrôle parlementaire, je commence d'abord par du côté de la votation de lois, comme pour cette session, comme vous venez de le dire. La plupart des lois que nous avons votées, ce sont les lois que la majorité a besoin et sans qu'il y a nécessité de cela. Mais les lois qui intéressent davantage aussi la population...
Donnez quelques exemples.
Particulièrement la loi sur la répartition des sièges, parce que nous allons aux élections. C'est vrai, c'est pour toute la nation. C'est aussi une matière à vendre pour eux par rapport à la communauté internationale qui exige à ce qu'il y ait nécessairement les élections au courant de cette année. Mais il y a des lois aussi importantes, telles que la loi sur la manifestation. Vous savez très bien que nous avons fait environ 2 années, les manifestations de l'opposition et des églises ont été bloquées de manière irrégulière. Et la seule justification, c'est qu'on était en train de faire appel à l'ancienne loi qui n'avait rien à faire avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, alors qu'il y a une loi qui a été déposée depuis très longtemps, qui a déjà duré, qui a déjà dépassé même la durée de sa promulgation, dont on faisait fi. Alors, nous sommes en train de partir vers les échéances électorales. Il y aura beaucoup de manifestations parce qu'il faut qu'il y ait cette loi-là pour permettre à ce que les uns et les autres puissent s'émouvoir et puissent s'exprimer librement. Il y a eu plusieurs lois qui n'ont pas été votées, mais aussi le contrôle parlementaire a beaucoup souffert. Il ne suffisait pas de voter seulement les lois, mais il fallait voir ces lois-là être mises en application. Je peux vous donner certains exemples en ce qui concerne particulièrement la loi sur les finances publiques, le budget. Le budget qui est d'application aujourd'hui est un budget qui a été voté au moment où les recettes n'étaient pas à la hauteur comme actuellement. Il fallait nécessairement qu'il y ait ce qu'on appelle les collectifs budgétaires pour adapter les budgets actuels au niveau des entrées. Cela n'a pas été présenté. Il y a eu le problème dont vous avez parlé à propos du remplacement du rapporteur de la CENI. C'est une question importante qui va de la vie et de la mort par rapport à la République parce que la question électorale est une question de confiance des uns et des autres, mais aussi de l'arbitre qui est la CENI qui devrait nous départager. Donc, vous trouvez qu'il y a des questions importantes, particulièrement la matière de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a plusieurs matières qui ne sont pas appliquées et la seule institution qui devrait interpeller l'autorité quant à ce, c'est l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas la justice qui devrait le faire, ce n'est pas une autre institution. Il fallait qu'il y ait des initiatives dans ce sens pour contrôler les lois et les accords que nous avons signés ensemble pour le mettre en vigueur. Tant qu'il n'y aura pas ce contrôle, on peut voter les lois, on peut dire que le bilan est mitigé, mais au final, le bilan est négatif. Parce que quoi que vous votiez les lois, mais si le contrôle ne suit pas pour que ces lois-là soient mises en application, donc vous ne faites rien.
Est-ce que vous ne direz pas, on ne vous reprocherait pas le fait que ce bilan vous le dressez parce que vous êtes simplement de l'opposition et que vous voyez le verre soit vide, soit à moitié plein?
Avant d'être opposant, je suis citoyen congolais, je suis citoyen de la République. Un citoyen de la République doit être un soldat pour protéger la Constitution et la République. Je parle avec les évidences. Au moins qu'on me contredise par rapport aux évidences pour me situer du camp de l'opposition. Mais ici, je parle d'abord, étant que citoyen, nous devrons faire avancer la République en disant la vérité, parce que faire la politique ne signifie pas dire seulement ce qu'on pense, mais dire ce qui est du côté de la vérité et de la loi. Dans tout ce que je viens d'évoquer ici, je pense qu'il y a des évidences. Quoi que quelqu'un peut être de la majorité, il les soutiendrait. Parce que j'ai étayé ce que je viens de dire.
Et donc, quand vous dites que les lois votées sont celles dont la majorité a besoin, et donc il y en a d'autres qui sont carrément négligées ou mis de côté ou laissées dans les tiroirs.
Exactement. Je vous ai parlé particulièrement en ce qui concerne les manifestations publiques. On sent que c'est beaucoup plus l'opposition qui a besoin des manifestations pour réclamer les injustices. On ne vote pas en urgence. Cette loi-là était sur la table du chef de l'État il y a plusieurs années. Il ne l'a pas promulguée. C'est une loi qu'on vient de retourner à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres choses, particulièrement en ce qui concerne la CENI. Le PPRD a déjà remplacé son préposé. Mais en ce qui concerne les préposés à la CENI de l'UDEPES, on refuse de le faire à temps. Ça fait 1 année et 6 mois. Donc voilà les évidences que je suis en train d'étayer pour faire comprendre ma position qui n'a rien à voir avec ma position d'opposant, mais qui a à voir avec un citoyen qui veut voir les lois de la République et les conventions et accords signés soient respectés.
Alors quel est l'enjeu autour du remplacement du rapporteur de la CENI?
L'enjeu est d'abord que la CENI, comme je vous ai dit, aller aux élections, c'est une question de confiance. Nous devrons avoir confiance entre nous, les adversaires. On devrait avoir confiance entre nous et l'arbitre qui est la CENI. Du moment où il y a rupture de confiance entre un camp avec son préposé, il est dans l'obligation ou dans le devoir de les remplacer. Regardez comme on est en train de protéger les rapporteurs de la CENI par la majorité. C'est une preuve de plus qu'il y a un deal entre la majorité et les rapporteurs de la CENI pour faire gober aux citoyens congolais ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, le fait de s'acharner à garder le rapporteur de la CENI est une preuve que les rapporteurs de la CENI œuvrent pour les comptes de la majorité.
Merci, honorable John Kolela. Honorable Albert Botombola, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, je suis vivant. Bonsoir et merci.
Alors, vous avez suivi l'honorable John Kolela qui pense, lui, que le bilan de cette session parlementaire est négatif. Quel est votre avis?
Le bilan n'est pas négatif. Il y a eu des lois qui ont été votées. Il y a eu aussi des initiatives et sur les contrôles parlementaires. Je crois qu'il faudra qu'on puisse être précis. Parce que si nous devons nous étendre, vous parlez de la liberté de manifestation, vous sautez sur les remplacements des calembards. Vous allez sur une autre loi, je crois qu'il faut qu'on réponde point par point pour que nous puissions être compris. À ce qui concerne la liberté de manifestation, les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, ont voté la loi sur la manifestation, la liberté de manifestation. Mais au niveau de la présidence, on nous a renvoyé cette loi-là pour une seconde lecture. Et vous connaissez l'agenda de la commission PAJ. Je ne suis pas deuxième vice-président du groupe parlementaire AFDC et Alliés. Je suis plutôt deuxième vice-président de la commission PAJ, la commission politique, administrative et juridique. Alors, la commission a un agenda chargé. Nous avons eu à examiner au niveau de la commission la loi portant répartition des sièges. Il n'y a pas que cela. On a eu à commission mixte avec les COFIN. Les collègues ne le disent pas, la loi sur la Cour des comptes. On a eu aussi, avec la commission socio-culturelle, la loi sur la santé publique. Donc, bref, la commission PAJ est chargée. Mais ce qui concerne particulièrement la loi sur les manifestations publiques, il y a eu une paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour qu'on puisse aplanir les divergences sur cette question-là. Et le travail a été présenté au début. Je crois que sous peu, cette loi-là doit être encore envoyée au niveau de la présidente de la République pour qu'elle soit promulguée. Les collègues parlent de remplacement des calembards. Bon, je suis mal placé, mais je dois quand même placer un mot là-dessus. Vous connaissez la législation congolaise sur les noms. On vous présente quelqu'un qui s'appelle Bertin Bidimu. Et son vrai nom, c'est Bertin Bidimu Tshisekedi. Bon, maintenant, par rapport à la législation congolaise sur les noms, rien que sur ce point précis-là, les éléments du nom ne sont pas respectés. Ça, c'est un point. Un deuxième point, ils disent que le président du groupe parlementaire a écrit pour qu'on puisse remplacer Kalamba. Le président du groupe parlementaire, il est allié, a effectivement écrit. Mais le président écrit après avoir consulté les autres membres du groupe parlementaire. Il ne l'a pas fait. Au MLC, il y a eu ce problème, mais c'était MLC moins 1. Il n'y a que l'ancien ministre Tingombay, le premier ministre Tingombay, qui s'était opposé au remplacement du délégué du MLC. Donc, tout le groupe parlementaire, moins 1. Donc, l'opposition était minime. Mais à l'IDPS, on vous envoie des listes diverses. Il y a une liste de 36 membres qui soutiennent les remplacements de Kalamba. Il y a une autre liste de 23 membres qui ne soutiennent pas les rassemblements de Kalamba, donc qui soutiennent les maintiens de Kalamba. Et il y a encore une autre liste de 16 membres qui soutiennent les maintiens de Kalamba. Dans la liste de 36 membres qui soutiennent les remplacements de Kalamba, on retrouve six noms de part et d'autre. Donc,
honorable Botombola.
Oui.
Oui, merci pour toutes ces précisions que vous nous apportez. L'honorable Kolela va répondre en temps utile. Mais par rapport, revenons sur la loi sur les manifestations publiques, ne fallait-il pas faire diligence par rapport à cette loi compte tenu du contexte électoral dans lequel on est?
Mais je vous ai dit qu'il y a eu une commission mixte qui s'est tenue entre l'Assemblée et le Sénat. On a aplani les divergences. Le rapport a été transmis aux deux bureaux. Maintenant, présentement, il appartient aux deux bureaux de pouvoir donc programmer cette loi-là au niveau des grandes plénières, au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale et au niveau de la plénière du Sénat. Et après, on va voir, on va promulguer. Encore que les divergences ont été aplanies. Je crois que de ce côté-là, les choses peuvent évoluer.
Alors,
il n'y a pas crainte à ça. Non, mais seulement, c'était ça à la fin, parce qu'il y avait aussi d'autres lois. La loi sur la répartition des sièges est aussi importante pour les élections que l'est la loi sur les manifestations publiques.
Alors, en parlant de la loi sur la répartition répartition des sièges, honorable, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a eu une certaine cacophonie compte tenu de ce qu'elle a été votée, promulguée avant la révision du fichier électoral?
La loi sur la répartition des sièges n'a pas été votée avant la révision du fichier électoral. Il y a eu d'abord révision du fichier électoral. La loi a été examinée au niveau de la commission PAJ, au niveau de la commission PAJ aussi du Sénat. Elle a été, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, elle a été votée. Mais il y a eu un travail consolidé de la CENI où on a estimé qu'il y a, des doublons dans certaines provinces qui ont fait que le nombre de sièges a varié, par exemple, au niveau de la province de Sankuru, si je m'abuse, au profit de la province de la Tchopo et de Tanganyika.
Merci, honorable.
Il y a un travail consolidé au niveau de la CENI.
Merci, honorable. Je reviens à vous tout à l'heure. Christian Moleka, vous êtes coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous analysez le bilan de cette session parlementaire?
Merci, Alain, pour la parole. Je suis assez perplexe parce que généralement, quand on demande aux élus les bilans sur le travail parlementaire, la première réaction, c'est de donner un nombre en termes de quantité des productions. Et pourtant, il n'y a pas de point de vue sur ce qu'est la qualité de loi qui est produite. Autant on met l'accent sur la quantité de lois qu'on produit durant une législature, autant on devrait également mettre l'accent sur la qualité de loi qu'on vote. Et la qualité de loi est liée à la qualité des discussions qu'il y a au niveau du Parlement. Or, les sentiments que j'ai, c'est que de plus en plus nous votons des lois au pas de charge. Les temps sont très réduits, il y a très peu de temps à la fois pour une qualité de discussion, mais également une qualité de travail au niveau des commissions et de la rédaction. Ce qui fait que vous avez par exemple une loi aussi importante que les lois électorales, vous les adoptez en moins d'une semaine, en sept jours, parce qu'il y a des contraintes de calendrier, et ça a de l'incidence dans la qualité de loi que nous sommes en train de voter. Moi, je crois que les députés, les élus devaient travailler sur l'amélioration des conditions d'examen du texte pour que nous puissions avoir des textes de qualité.
Est-ce que ce ne sont pas les élus eux-mêmes qui se mettent sous pression en laissant passer le temps? On fait des calculs politiciens pour tacler les uns, contrecarrer les autres, on essaie de faire les choses, des passages en force, ainsi de suite.
La majeure partie des lois qui sont présentées sont des projets de loi, c'est-à-dire qu'ils viennent du gouvernement. Ce n'est vraiment pas des propositions des élus. Et donc, les élus sont liés à l'agenda du gouvernement, au date des dépôts, mais également de l'inscription des matières en débat. Et comme beaucoup des lois, cette session était liée aux élections, ces lois étaient calées dans le calendrier de la CENI qui vous dit qu'on devait promulguer au plus tard le 8 mai telle loi, qu'on avait voté au plus tard le 6 mai telle loi, et donc les élus étaient rythmés en suivant le calendrier électoral. Et donc ça a de l'incidence dans la qualité du débat, dans la qualité des lois qu'on vote. Parce que on ne peut pas avoir de loi de qualité si on n'a pas des grandes discussions ouvertes où il y a la confrontation démocratique, où il y a la possibilité d'aborder les questions de fond. Et là, on n'en parle plus parce que tout ce qui compte maintenant, c'est les temps. Il faut voter les lois parce qu'il y a un calendrier à respecter et un temps de suite. Deuxièmement, c'est, je dirais, la finalité des lois. Parce qu'on vote les lois pour répondre à un besoin social qui est une attente populaire. Est-ce que les lois qu'on est en train de nous voter correspondent aux attentes des citoyens? Je prends la loi électorale par exemple. Lorsqu'on on enlève la caution qui passe de 500 000 à 1 million de francs congolais par candidat, est-ce que cette loi est le reflet de notre société ou elle vient simplement des officines politiques pour asseoir des artifices juridico-techniques des quelques laboratoires? Je pense que les lois devaient servir à être juste adaptées à la société. Et les élus devaient travailler à améliorer les lois pour que les lois soient adaptées à la société, pas uniquement à quelques artifices juridico-techniques qui répondent à quelques états-majors politiques. Et puis également, il y a ce que les honorables ont dit tantôt ici, en termes des lois non votées. Il y a des lois aussi importantes que la loi électorale, notamment la loi sur la libre manifestation. On va se rappeler que durant les mois de janvier et février, nous avions eu une ville bouleversée à cause des nombreux appels à mobilisation que nous connaissons avec le CLC. Et l'une des attentes de ces mouvements-là, c'était également cette loi-là, qui nous permettrait d'aller aux élections avec un espace public assez ouvert. Or, nous sommes, je dirais, à 4 jours du dépôt de candidature, 5 jours du dépôt de candidature pour les provinciaux. Donc nous entrons en pleine phase électorale sans avoir cette loi qui ouvre à l'espace démocratique à la discussion. Et je crois que les élus devraient travailler très rapidement pour que nous puissions avoir cette loi qui accompagne les processus démocratiques.
Alors, vous avez suivi aussi toutes les discussions autour de remplacement de telle personne. Il y a des enjeux pour les uns, il y a cacophonie pour les autres. Tout ça, ça prend du temps et le temps, on ne l'a pas toujours pour soi.
Bon, l'honorable Kolela n'a pas tort de dire qu'un processus politique se construit sur la confiance. Mais en même temps, il faut éviter de trop politiser la CENI. Parce que lorsque on veut prendre politiquement en otage la CENI, on biaise le jeu. L'honorable le sait également qu'il a été créé une plénière il y a quelques années parce qu'on estimait que le bureau avait beaucoup de pouvoir et qu'il fallait créer un autre organe qu'on appelait une plénière qui avait des capacités de contrôle. Donc à trop vouloir personnaliser le problème autour des individus, on est en train de se leurrer parce que la CENI c'est d'abord une équipe, c'est un bureau qui travaille de manière collégiale, puis il y a une plénière qui a également des compétences. Il faut voir le système dans son ensemble plutôt que les individus. Bien évidemment, il y a des composantes qui ont besoin d'avoir plus de confiance dans les processus. Et pour ces questions-là, il faudrait travailler pour qu'on ait plus de confiance, mais sans focaliser le problème autour des individus, mais voir l'appareil comme un système.
Alors, il y a certains analystes qui pensent que, compte tenu du contexte actuel, on est en pré-campagne et que certains élus, notamment la plupart, auraient déjà la tête ailleurs.
Oui, bien évidemment, parce que comme je le dis, les dépôts de candidature commencent dans 5 jours. Donc, certains élus, ceux qui seront aux provinciaux, devront déjà rejoindre leur bureau de responsable de candidature pour déposer les candidatures. Et pour les nationaux, c'est dans pratiquement un mois, jusqu'au 20 juillet. Et donc, les esprits sont ailleurs. Et lorsque l'on veut commencer à focaliser les attentions sur des questions qui font des couacs, eh bien, on n'aura pas la totale concentration des élus parce que déjà, nous sommes dans la fièvre des périodes électorales.
Alors, en parlant de qualité, c'est vrai, l'honorable Botombola a souligné que c'était l'une des législatures où il y a eu le plus de lois votées. Vous avez mis l'accent sur la qualité, précipitation, contrainte de temps. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement des lois biaisées, des lois mal ficelées?
Je crois que les élus ont quand même une certaine expertise dans la logistique, mais c'est au niveau de la qualité du débat, notamment des confrontations démocratiques. Nous avons l'habitude chez nous, lorsqu'on a des lois d'importance nationale, une partie de l'opinion qui sort, notamment une partie des élus qui sortent. Donc vous avez une loi votée avec uniquement la majorité, et donc vous n'avez pas la possibilité de confronter démocratiquement les points de vue. Le Parlement est appelé le temple de démocratie parce que c'est le lieu du débat. Et donc il faudrait que lorsqu'on vote des lois à porter comme ça, qu'il y ait un débat autour de loi pour améliorer la qualité des textes. Mais lorsqu'on n'a pas de débat, parce qu'on est lié à un agenda très serré et qu'il faut 4 jours pour voter une loi, eh bien, on ne peut pas avoir cette qualité de débat qui accompagne l'efficacité des lois.
Merci, honorable Kolela. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Peu importe le bilan que l'on peut dresser du déroulement de cette session parlementaire, et vu le temps de traitement de chaque matière au niveau de cette institution, on ne pouvait pas privilégier la loi sur les manifestations publiques et celles portant protection des défenseurs des droits de l'homme, en lieu et place de la loi portant répartition des sièges. Je pense que le Congolais ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut avoir la loi sur les manifestations publiques, c'est bien, mais sans la loi sur la répartition des sièges, cela peut retarder l'organisation des élections.
Honorable Kolela.
Oui, j'ai bien suivi avec intérêt l'intervention de M. Mbouyi Kachama, mais je lui dirais que toutes les lois sont importantes au même titre. De même qu'on devrait avoir la loi sur la répartition des sièges pour aller aux élections, de même il faut qu'il y ait une organisation sociétale de sorte que, avant d'aller aux élections, il y aura des manifestations, il y aura des campagnes qu'on doit organiser. Cela exige à ce qu'il y ait une loi qui organise cela. Donc, mettre en cause la loi sur l'organisation des manifestations, je pense que c'est vouloir atteindre les élections à moitié. Parce que arriver aux élections passera aussi par la loi sur l'organisation des manifestations. C'est ici, je profite aussi l'occasion pour répondre à mon co-débatteur, le député, l'honorable Albert, pour dire que on doit quand même avoir de retenir pour dire ce qu'il est en train de dire parce que nous sommes une institution. Il dit que nous avons donné le nom de Bertrand Médimou sans le nom de Tshisekedi. Monsieur le deuxième vice-président de la PAJ, Ne cherchez pas à justifier la puissance ou les biceps des billets verts autrement par cela, parce que ça, c'est très ridicule. Le monsieur Midimou vous a convié son CV avec nom, poste, nom, études faites en entièreté. Et le nom est entier sur la lettre venant du parti politique UDPS, vous envoyé par le secrétaire général du parti. Dire qu'au MLC, il y avait MLC-1, c'est un mensonge à ciel ouvert. Au MLC, il n'y avait pas que l'honorable Fidèle. Il y avait, en plus de l'honorable Fidèle, il y en avait 6 autres propres du MLC. Fidèle, c'est le seul parmi les alliés. Mais au sein même du MLC, il y en avait 6. C'est-à-dire, sur 24 députés MLC, il y en a 7 qui ont contesté. En termes de pourcentage, le MLC a beaucoup de contestations que l'UDPS. De deux, le problème, ce n'est pas le nombre, c'est le principe. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, on passe aux voix. En passant aux voix, lorsqu'il y a 36 contre 16, directement, vous êtes obligé de donner l'avis. Vous avez refusé dans votre commission de donner l'avis, tout simplement parce que vous dites que vous n'avez pas travaillé dans les bonnes conditions. Un autre mensonge. Parce que dans la commission, vous étiez seul, sans le parti opposé. La PAJ s'est retirée pendant 48 heures pour donner l'avis à l'Assemblée nationale. Mais dans le rapport, elle a écrit que non, nous avons travaillé sous tension. Ça, c'est un mensonge pour justifier votre forfaiture. Et on ne peut pas laisser passer cela. Parmi les 7 qui ont refusé, je peux vous citer Fidèle, je peux vous citer Zangi, je peux vous citer Audagba, qui sont même exclus du MLC. Qu'est-ce que vous voulez justifier? Alors moi, je dis que si vous n'avez pas travaillé dans les bonnes conditions pour accéder à notre requête, vous avez le temps, on vous donnera le temps un jour ou deux jours pour le faire, pour donner cela. En ce qui concerne le loi, je suis totalement d'accord avec Christian Moleka par rapport à la qualité de loi. Il arrive par moment, je peux vous témoigner que durant les 5 années que j'ai passées à l'Assemblée nationale, jamais j'ai terminé une intervention. Dès que vous prenez la parole, vous dites les choses qui n'arrangent pas le bureau, on vous arrache la parole, on éteint votre micro. Ça, ça fait partie de la qualité de débat parce qu'on ne veut pas entendre une opinion.
La conduite des débats n'est pas bien assurée selon
exactement.
Vous.
Ça fait aussi partie de la qualité dont mon frère Christian venait d'évoquer ici. Le temps, il est vrai que nous avons plusieurs lois à voter. Toutes les lois sont importantes, mais nous sommes divisés en commissions. Il n'est pas dit qu'en plénière, on discute de toutes les lois, parce que les lois sont travaillées d'avance dans les commissions, et les grands débats se passent au niveau des commissions, malgré qu'au niveau du débat général, parfois, on arrache la parole. Mais néanmoins, on a fait ce qui est essentiel. Il faut améliorer davantage, mais ne pas faire seulement ce qui est dans l'avantage de la majorité. Il faut faire les lois non pas pour la majorité, en taillant les lois sur mesure. Il faut faire les lois pour la République. Il faut faire les lois pour les citoyens. Particulièrement voilà. Ce que mon confrère venait de dire en ce qui concerne le quotient. Un citoyen, un fonctionnaire moyen au Congo touche combien par mois pour lui exiger 1000 dollars pour être candidat?
Alors beaucoup d'autres analystes ont souhaité que par exemple après le rapport préliminaire présenté par l'OIF concernant la révision externe du fichier électoral, qu'on ait eu par exemple une loi rectificative par rapport à la répartition des sièges.
Exactement. Le rapport de l'OIF fait en sorte qu'on puisse revoir certaines choses. Parce que identifier particulièrement certains citoyens sans empreinte digitale, alors que lorsque nous tous nous entrons dans le bureau d'enrôlement, lorsqu'il y a un seul doigt qui ne donne pas l'empreinte digitale, on était obligé de recommencer. On ne peut pas accepter qu'il y ait environ 16% de nos compatriotes qui sont enrôlés sans les empreintes. Donc cela prouve qu'il y a un problème sérieux. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui manquent des empreintes sont des fictifs? Qu'est-ce qui prouve que ceux qui n'ont pas les empreintes sont des militaires ou des policiers? Tout ça doit être établi noir sur blanc pour qu'on puisse lever une option qui nous permettrait à ce que les uns et les autres puissent affronter ces échéances avec confiance et sérénité.
Honorable Botombola, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est de Gassas Koukambombo depuis Kisangani dans la province de la Tchouké. Au regard de la thématique sous examen, force pour nous de dire que le bilan est largement déficitaire et le Parlement de la RDC à ce jour n'est peut-être considéré que d'un petit gras papier. Pourquoi nous le disons? C'est au regard de la machination politicienne de la majorité au pouvoir. Je voulais dire pourquoi doit-on considérer que la révision de la loi électorale devait être une priorité en ce moment pour refuser à la diaspora de participer également aux jeux politiques des élections de décembre de 2018 prochain. Il était également important de considérer la manifestation publique, la protection des droits de l'homme comme des priorités pendant ces temps pour un cadre figé politique.
Honorable Botombola.
Oui, merci. Bon, je commence par le dernier intervenant qui estime que bon, le Parlement ne fait pas bien son travail. C'est bien de le dire. À ce qui concerne l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Honnêtement, honnêtement, sincèrement, si vous êtes de bonne foi, vous estimez qu'on peut enrôler les Congolais de l'étranger dans les 90 jours ou dans les 3 mois? C'est quasi impossible. Si on enrôle une patrie, supposons qu'on dise enrôler les Congolais qui sont en Belgique ou en France, et ceux de la Papouasie-Nouvelle-Zélande, et ceux qui vivent à l'Australie ou ceux qui vivent, par exemple, en Asie mineure, ils ne sont pas Congolais. On n'a pas, c'est seulement une condition suspensive. Les Congolais de l'étranger seront enrôlés lorsque les conditions plus ou moins minimales seront garanties. Parce qu'on a estimé que présentement, avec les contraintes que la CENI a, donc l'accord de Saint-Sylvestre fixe les élections au 23, bon, par rapport au calendrier de la CENI, au 23 décembre. Si on commençait aujourd'hui à enrôler les Congolais de l'étranger, il y aura encore un autre glissement. Or, nous déplorons tous ce qu'on appelle glissement dans les concepts, dans les jargons congolais. Donc, on ne peut pas enrôler les Congolais de l'étranger présentement. On a suspendu leur enrôlement. À ce qui concerne la personne de Kalamba qu'on veut à tout prix remplacer à la CENI, le seul reproche qu'on lui fait, c'est de ne pas rendre compte à l'opposition. L'opposition dit que Kalamba ne préserve pas bien ses intérêts. Or, si vous lisez l'article 22 de la loi organique sur la CENI, à partir du moment où la personne se retrouve à la CENI, c'est une personne indépendante qui ne dépend plus de sa composante politique. Les autres ont été remplacés parce qu'il n'y a pas eu de problème. Au PPD, il n'y a pas eu de problème. Au MLC, le problème n'avait pas le même ampleur que celui de l'IDPS, où il y a beaucoup de correspondances. Je mets au défi les collègues et collègues de présenter les pièces où ils ont envoyé les noms, donc avec tous les éléments du nom. Elle n'a envoyé que Bertin Idimou. Bertin Idimou n'est pas Bertin Idimou Tshisekedi. Je lui mets au défi de nous présenter les pièces où on a présenté les noms en entier.
Honorable Botombola.
Oui.
Comme je le demandais tout à l'heure, j'ai posé la même question à Christian Moleka. Est-ce que la plupart des députés, de vos collègues, n'ont pas déjà la tête ailleurs, étant donné qu'on est en pré-campagne?
Bon, ils le sont certainement, mais ils attendent la CENI, ils attendent la session extraordinaire, parce qu'il y a aussi une loi importante qui doit être examinée, donc les statuts des anciens chefs de l'État. Ils sont encore ici.
Alors, qu'est-ce que vous répondez aussi par rapport à la qualité des débats qui a été évoqué ici?
La qualité des débats. Vous estimez que la loi sur la Cour des comptes qui doit contrôler les finances publiques qui a été votée n'est pas une loi importante? La loi sur la Banque centrale où la PAJ a pris aussi n'est pas une loi importante? Mais venez assister au débat. Le débat sur les remplacements des Kalamba. Mais les collègues de l'UDPS sont venus chahiter. Il y en a même qui y ont plairé. Vous avez suivi la plénière lorsqu'on a fait les rapports, comment elle s'est déroulée. Mais à la commission, c'était pire. Les gens ont failli en venir aux mains. Au lieu de débattre, les gens vont démontrer qu'ils sont plus forts. C'est les biceps qui jouent en lieu et place du doigt. Présenter les pièces. Ils n'ont jamais présenté les pièces convaincantes.
Autre chose. Et c'est par là que je vais vous arrêter pour cette intervention. Allez-y.
Oui, autre chose. Évidemment, je suis mal placé un peu pour dire ça. Il y a les autres, ceux qui estiment que Kalamba ne doit pas être remplacé, disent que la République a beaucoup investi à Kalamba au point qu'il est devenu expert de la CENI.
Merci.
Celui qu'on veut placer, est-ce qu'il aura suffisamment du temps pour pouvoir s'imprégner de toutes les questions électorales?
Merci, honorable. Christian Moleka, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Gaspard Michel Nkoulou, depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le bilan du Parlement pour cette session est à la fois positif et négatif. Je m'explique. Positif parce que les deux chambres du Parlement ont doté la RDC d'un certain nombre de si considérables de lois. Négatif parce que cette session a été caractérisée par le passage en force avec vote non consensuel des lois et par le protectionnisme des dirigeants. Nous encourageons la programmation des matières restantes à la session extraordinaire prochaine. Néanmoins, Nous émettons des réserves quant à l'application intégrale de ce texte, étant donné que le pouvoir prime dans le balayage des lois sous les yeux incapables des hauts magistrats, assourdis par les politiques.
Alors, j'ajoute cette réaction de Jacques Befonga Malo Malo qui dit « Le bilan du déroulement de cette session parlementaire est mitigé. Le travail exercé par les parlementaires est caractérisé par beaucoup d'éléments non encourageants. Il s'agit notamment de non-respect des règlements intérieurs, le traitement illégal des dossiers des opposants parlementaires et des traitements et votes des lois favorables à leurs intérêts particuliers. Au regard des lois votées par les deux chambres, beaucoup sont inopportunes et n'ont pas été votées en âme et conscience pour pacifier la RDC ou pour l'intérêt de la nation, mais au contraire, pour répondre aux attentes des gens pour qui ils travaillent. À en croire tous ces faits, après les votes de ces lois, rien n'a changé. Les controverses jaillissent toujours, Christian Molica.
Bon, il y a un peu du vrai dans tout ce qui a été dit par les deux intervenants. La CENI, plutôt le Parlement, a permis quand même au pays d'élever tout ce que la CENI appelait les contraintes juridiques. Donc tous les préalables liés aux lois ont été votés, la loi électorale, la loi sur la répartition des sièges, et donc à ce jour le processus électoral est sur le bon rail parce que toutes les lois qui constituaient des contraintes ont été levées.
Faut pas jeter l'eau le bébé avec
l'eau. Voilà, il y a cela qu'il faut reconnaître, mais là où nous insistons, c'est sur la qualité du travail qui est fait. Et notre intervenant qui pose la question a raison de rappeler notamment les conditions qui entourent le vote de ces lois, lorsqu'on a une partie de la représentation qui sort de la salle, lorsqu'on a trop peu de temps. L'honorable Albert et la commission PAJ, il connaît la pertinence du travail au niveau de la commission. Lorsque les calendriers sont chargés, ils ont besoin de temps. Mais lorsqu'ils sont liés par des agendas de la CENI, un calendrier à respecter, structuré, il le sait, il travaille sous stress, sous pression, sous tension. Et sous tension, on ne sait pas mettre l'accent sur la qualité, on met l'accent sur le temps. Parce qu'il faut respecter les échéances. Et donc, il faudrait qu'on améliore les conditions d'examen des textes pour que nous puissions avoir les lois de qualité.
Alors, par rapport à la session extraordinaire qui s'annonce, il y a des grands enjeux aussi qui s'annoncent. C'est notamment l'examen de la proposition de loi sur le statut des anciens présidents de la République et puis l'adresse du président de la République au Congrès.
Ouais, tout le monde attend, je pense, l'adresse du président parce que nous sommes... à quelques jours de la convocation de l'électorat et donc nous sommes à l'ouverture du processus électoral. Tout le monde attend savoir si au sein de la majorité il y aura un dauphin et qui il sera, et je crois que le chef de l'État pourra, non seulement en tant que chef de l'État et patron de la majorité, donner quelques indices sur le processus électoral jusqu'à qui doit aboutir au 23 décembre. Mais en même temps, vous évoquez la loi sur le statut des anciens chefs de l'État. Je pense qu'au moment où nous sommes en train de travailler pour avoir une alternance pacifique et démocratique, il est toujours utile d'avoir des mécanismes qui rassurent les partis, et je crois que cette loi-là est bienvenue pour amener un peu d'apaisement à ceux qui sont à la gestion et espérer que nous pourrons, par ce mécanisme-là, aboutir à une transition, à une alternance pacifique du pouvoir.
Namegab et Pascal de Bouka vous dit « Je pense que les parlementaires se contentent de gaspiller le budget de l'État avec les sessions extraordinaires car rien ne prouve qu'ils vont prendre les choses au sérieux pendant le peu de temps alors qu'ils ne l'ont pas fait durant plus de 90 jours. »
Il faut rappeler déjà que le calendrier de la session était abondante. Il y avait 32 projets de loi d'arriéré, 6 nouvelles lois, 9 lois traitées à commission paritaire, des activités des vacances parlementaires à exploiter, la validation des mandats des députés. Il y avait énormément de matières, donc je crois plus d'une quarantaine de matières qui étaient inscrites. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui a été abattu en termes quantitatifs, j'insiste, pour évacuer certaines matières. Et donc il est logique qu'on n'ayant pas épuisé le calendrier des sessions, qu'une session extraordinaire soit convoquée pour épouser quelques matières. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait logique.
Est-ce qu'il n'y aurait pas danger que des lois telles que celles sur les manifestations publiques ne soient pas examinées?
Attendons voir. À entendre parler les élus, le travail serait déjà terminé au niveau des commissions paritaires et qu'il ne resterait plus qu'à l'Assemblée, qu'aux deux bureaux de les soumettre. Attendons voir. Mais je crois que cette loi-là est de haute portée pour la démocratie et qu'il serait, je crois, crucial pour les élus de les traiter très rapidement.
Alors, d'autres lois, donc, vont rester en souffrance. C'est par exemple la loi sur portant protection des défenseurs de droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme, l'accès à l'information, ainsi de suite.
Et ici, donc, la diplomatie, sur le tourisme, sur l'adhésion au Comessa, à l'espace de libre-échange de Comessa. Il y a énormément de choses. Nous sommes totalement focalisés sur les élections parce que nous ne parlons plus qu'élections. Ça fait 2 ans qu'au Congo, qu'on ne parle plus qu'élections. Et toute l'attention de la classe politique ne tourne autour des élections. Et en attendant, le pays est, voilà, en stand-by.
Alors, honorable Kolela, l'émission est en train de se terminer. La session extraordinaire va intervenir d'ici là. À quoi vous vous attendez?
Oui, les matières ont été fixées dans le message que le président de l'Assemblée a lu devant l'opinion. Particulièrement, nous nous attendons à ce que le chef de l'État puisse réunir son courage pour dire au peuple congolais que la Constitution sera respectée et qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat et qu'il va présenter quelqu'un d'autre que la majorité pourrait se choisir quant à ceux. Et nous nous attendons à ce que les différentes lois qui sont énumérées soient votées. C'est vrai que nous n'avons que 30 jours. Si on est là que dans ces 30 jours, les samedis et les dimanches, on prend que les jours ouvrables de travail. Donc on ne reste qu'avec 26. Et les matières sont déjà abondantes. Il est vrai que nous n'avons pas voté toutes les lois parce qu'on ne vote pas toutes les lois dans une session ou dans une législature. Il y a des lois qui traînent encore. Il y a les jours à venir qui seront votés, il y aura la session de septembre, d'autres lois pourraient encore suivre. Mais ici, s'il y a session extraordinaire, c'est par rapport aux lois qu'on estime urgentes, qu'on devrait voter avant d'atteindre la session de septembre. Prenant en compte la loi sur le statut des anciens chefs de l'État, je dirais qu'il fit dans son temps, en 2015, l'honorable Clément Kankou avait déjà fait une proposition dans ce sens et la majorité avait refusé, estimant que le chef de l'État, étant donné qu'il sera sénateur à vie, il est déjà sérieusement bien protégé et on n'a pas besoin de cette loi-là. Mais aujourd'hui, voilà que ça revient encore et en urgence. Donc, nous disons qu'il fallait qu'on puisse arriver à cela. Et là, je m'en vais rencontrer mon co-débatteur Albert quand il dit à propos de l'enrôlement des Congolais de l'étranger que c'est un faux fuyant parce que l'enrôlement des Congolais de l'étranger, c'est une loi. Durant les 5 années, depuis 2011, on devrait déjà prévoir cela et programmer cela. Ce n'est pas les 2-3 mois à rester restants qu'on devrait penser à cela. La loi qui a inclus les Congolais de la diaspora pour participer aux élections a été votée depuis le 19 janvier 2015.
Et en guise de conclusion?
Donc, nous avons eu 3 années pour cela. Et dans le calendrier de la CENI, jamais une contrainte quant à ce.
Merci.
C'est comme si c'était déjà fait.
Merci.
En guise de conclusion, je dirais que et nous devons être honnêtes vis-à-vis de notre population parce que on nous reproche que nous voulons remplacer Kalamba dans peu de temps alors que nous tendons vers les élections. Nous avons réclamé cela il y a 1 année et 6 mois avant les PPRD, avant le MLC. Et donner cela comme un argument, ça prouve qu'il y a un problème et que l'argent a sérieusement circulé pour convaincre les gens de la PAJ afin de ne pas accéder à notre requête.
Merci. Honorable Albert Botombola, comment vous entrevoyez la session extraordinaire qui va venir d'ici là? L'honorable Kolela pense que le président Kabila doit en fait dire qu'il ne sera pas candidat et présenter son dauphin.
Je rappelle qu'en 2006, nous avons eu des élections. Les Congolais de l'étranger n'ont pas participé. En 2011, même, ils n'ont pas participé. Ils pouvaient l'être, ni têter les contraintes. Mais je rappelle aussi qu'au début de la législature, l'honorable Jeannette Kabila avait demandé qu'on fasse les recensements des Congolais de l'étranger. Lorsqu'on a institué l'institution qui gère l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État,
l'ONIP.
Il y a une loi où un alinéa de l'article 8 a posé problème. Lorsqu'on a voté la loi électorale qui est présentement révisée, on a estimé que on ne pouvait pas accepter qu'on puisse faire les recensements.
Et en guise de conclusion, honorable, parce que l'émission est en train de se terminer.
Oui, la conclusion, c'est que les matières qui sont inscrites au niveau de la session extraordinaire seraient examinées. La proposition de loi sur les défenseurs des droits humains donc, a été votée par les deux chambres en des termes divergents. On va l'examiner au niveau de la commission paritaire. Je crois qu'il pourra.
Merci, honorable. Merci honorable. Christian Moleka, conclusion.
Je dirais pour mot de la fin qu'il faudrait que les élus travaillent sur la qualité des lois. Il ne suffit pas de voter un grand nombre de lois, mais il faut veiller que la qualité des décisions permette d'avoir des lois de qualité, parce que c'est une exigence démocratique.
Merci monsieur, cette émission est terminée. Dona Madimba, Mimi Ngumba, Willem Lungamba, sous la supervision de Pélékipé Lamondo, m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Moi je suis Alain Rungmoshi, je vous l'ai présenté. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Merci de votre fidélité. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.
Okapi.
Okapi.
Flash Info Pascal Massirika.
Okapi.
Madame, messieurs, bonsoir. Coup d'envoi ce lundi de l'examen d'État en